I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X en compagnie de Mel et Max.
Bonsoir, bonsoir.
Hello, hello.
Comment est-ce?
T'arrêtes pas de bien aller.
Ouais, là, j'ai su que t'avais passé une grosse soirée.
Ah, oh, une grosse journée.
T'es-tu allé faire de la lutte?
Une grosse soirée.
T'es-tu allé faire de la lutte au musée de la civilisation, toi?
Je suis pas allé faire de la lutte, mais je suis allé assister à un combat de lutte.
Ah, je suis un peu déçu.
En compagnie de lutteurs extraordinaires et la lutteuse Lou. Au Farrell, qu'on adore.
Oui, hein? Oui.
Et c'était au Musée de la civilisation dans le cadre du lancement de l'exposition Lutte, créée avec X McKenna, Robert Lepage. Écoute, c'est incroyable cette exposition-là. J'ai visité ça rapidement. Je vais y retourner avec mon garçon, mais c'était super. Le combat le show était magnifique. Il y avait du monde, 1000 personnes, au-dessus de 1000 personnes.
Mais faire de la lutte et 1000 personnes au Musée de la civilisation, il n'y avait pas un danger de briser des vases ou des assiettes antiques?
Non, c'était parfait.
Okay.
Non, c'est dans le hall.
Je voulais juste m'assurer.
Ce même endroit où j'ai participé à un rave dans les années, mon Dieu, 98-99, je pense.
Tu étais à jeun à ce moment-là.
Oui, très à jeun.
Oui, oui, oui.
Pour vrai, je buvais du smart drink. J'étais bonne de même.
C'est incroyable.
Bam, bam, bam.
Un modèle pour les jeunes.
Écoute, non, mais c'est vrai, moi, je oublie ça, je peux pas rien prendre.
Ben non, avec ton TDAH et ton hyperactivité,
j'ai déjà l'air,
monté au plafond.
J'ai déjà l'air de consommer à jeun.
Okay. Ouais, c'est ça qui arrive. T'as mis où ta margarine déjà? Dans l'armoire.
Un autre
OK,
sujet.
On passe à autre chose.
un peu de sérieux, en fait. D'ailleurs, on est en live sur TikTok présentement, sur le TikTok de la Sexploratrice. On a une invitée en studio avec nous. Une invitée que j'ai fait hâte. Hâte d'avoir avec nous, puisque ça fait quand même longtemps qu'on parle de ça.
Effectivement.
Et on va tout de suite passer au sujet principal, parce que j'ai l'impression que, comme toujours, on va manquer de temps.
Inévitablement.
Voilà. On a la chance d'avoir avec nous en studio ce soir Anne-Marie Tappe, en direct de Montréal, qui est religiologue et candidate à la maîtrise du Centre d'études religieuses contemporaines de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir.
Salut!
Bonsoir, Anne-Marie.
Anne-Marie, ce soir, on va faire le tour un peu de tout ce qui est mouvement sectaire, gourou. On va également inévitablement parler de la sexualité dans les mouvements sectaires. Mais et quelle place occupe la sexualité dans ces sectes-là, mais également de prostitution sainte.
Mm-hmm.
On va parler de ça un peu plus tard.
Absolument.
Pour le moment, on voudrait savoir qu'est-ce qu'une religiologue?
En fait, une religiologue, c'est une spécialiste des sciences des religions. Donc, on traite la religion d'un point de vue anthropologique, sociologique, philosophique, historique et même d'un point de vue féministe. Donc, on n'est pas dans la croyance, on est dans l'observation autant des textes que de comment on peut l'observer dans la société moderne et même sécularisée.
Wow, c'est un titre qui est peu commun, un sujet et une
Absolument.
Expertise qui est vraiment peu commune. Mais si on revient un peu en arrière, Anne-Marie, toi, est-ce que tu as grandi dans une famille religieuse? Tu viens d'où, Anne-Marie?
Absolument, j'ai grandi dans une famille très croyante,
ah, il est là, le corollaire.
Oui, absolument. Également, j'ai été dans des milieux plus sectaires, plus fermés moi-même comme personne. Donc, j'ai vraiment une double posture par rapport au milieu sectaire. Donc, autant pour en avoir vécu que pour les avoir étudiés d'un point de vue externe. J'ai étudié surtout des mouvements qui n'étaient pas les miens, justement pour pouvoir avoir cette distance-là avec le sujet puis pour pouvoir en parler de manière académique et le vulgariser sans émotion, disons.
Et donc, tu as réussi à te sortir d'un milieu...
Oui, ben en fait, on a tous... Il y a plusieurs personnes qui sont sorties de là, donc c'est pas un... Je vais pas dire que c'est pas un exploit en soi, parce que ça prend du guts, là.
Ouais.
Mais voilà, c'est... Oui.
Et tu es à l'aise de nous dire à peu près comment est-ce que ça fonctionnait? En fait, c'est au niveau familial que ça a commencé, là... Dès l'enfance?
Exactement.
Tu as été élevée dans la secte?
Non.
Okay.
C'est plus tard dans ma vie où j'ai été là. Puis en fait, je suis pas tant à l'aise de parler de moi, ma situation.
voilà. On était curieux d'en
J'irai
apprendre
voir
davantage.
Un professionnel de la santé mentale.
Absolument. C'est parfait. Donc, à partir de quand est-ce que tu t'es dit, hey, moi, j'ai envie de devenir religiologue?
Ben, en fait, j'étais à mon bac en enseignement d'éthique et culture religieuse au secondaire. Il y a eu un colloque de profs qui se donnait, de profs de CR. Et il y a une des conférences, que c'était Lorraine Desrochers qu'elle le donnait. Et elle parle, c'est la spécialiste, comment je peux dire ça, de la protection de la jeunesse au niveau de l'enfance dans les milieux sectaires.
OK. Wow.
Et je me suis dit, oh my God, on peut gagner notre vie, on peut donner cette information-là à propos des sectes. Et je me suis demandé comment je peux faire. Et il y avait un département de sciences des religions à l'UQAM. Donc, j'ai été faire aussi un bac en sciences des religions à l'UQAM. Puis là, je suis à la maîtrise au Centre d'études religieux contemporain à Sherbrooke où enseigne Lorraine Desrochers.
On comprend que tu t'es traîné les pieds dans un milieu qui était peut-être sectaire une partie de ta vie, pendant une partie de ta vie. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé au-delà de ça à t'intéresser aux religions?
En fait, c'est que la religion, c'est un peu comme la politique ou le sexe. Je m'explique là-dessus. Tout le monde en parle, personne ne comprend rien.
Effectivement.
Tellement.
C'est vrai, c'est tellement
nébuleux. Plus on le comprend, plus on en parle. Puis, ben, à un moment donné, on commence à avoir des informations qui sont véridiques. Puis, on finit par se rendre compte que non seulement on ne le savait pas, mais qu'en plus, c'est intéressant.
Absolument. Puis avant de tomber, là, d'aller un peu plus loin au niveau des sectes, bon, c'est là le Québec a réussi à se débarrasser, si on veut, de la religion au sein de l'État. On habite désormais dans un Québec laïque. Mm-hmm. Mais quelle est la place de la religion, selon toi, en 2024? Puis j'ai une autre sous-question après.
Mais déjà, celle-là, c'est une grosse question. En fait, le religieux n'a pas disparu du Québec. Il y a eu un déplacement du religieux. Donc, on était plus dans des religions instituées avant.
Ouais.
Maintenant, on est plus dans des religions... je prends souvent cet exemple-là, mais comme le Canadien de Montréal, pour certains, ça peut être une religion. Ils mettent leur dévotion ailleurs sur un autre. Les Nordiques, c'est une religion. On a perdu nos figures emblématiques. On
c'est
a perdu
vrai.
Nos... Puis on reste accroché à ça. Puis on est même prêt à se péter la gueule pour dire que ton héros est plus fort que le héros de l'autre.
Tout ce qui soulève les passions dans la culture, c'est un peu ça?
En fait, oui, mais ça dépend de l'intentionnalité puis de l'intensité de ta passion. Donc, c'est en fait, ça part d'idéologie. Peu importe ton type d'idéologie, et ça, ça peut devenir une religion non instituée pour toi.
Puis, est-ce que ça existe des bonnes religions ou des bonnes sectes, selon toi?
Oh, mon Dieu! Dès que, selon moi, là, dès qu'il y a du contrôle sur les gens à qui tu peux parler, à qui tu ne dois pas parler, puis qu'il y a une polarisation du monde qui se fait entre le « eux » et le « nous », c'est pas bon. Ça crée de l'isolation, autant physique que mentale. Donc, selon moi, ça, c'est un facteur qui est aggravant. S'il n'y a pas ce facteur-là, je vois pas de dangerosité à premier abord. Là.
Okay.
Ce serait quoi la différence entre religion et secte? À partir de quand est-ce qu'une religion devient une secte?
En fait, dans la description de ce qu'est une secte, c'est souvent un groupe de gens qui ont des valeurs très fortes puis qui vont être un peu en contradiction, ben en fait beaucoup en contradiction violente avec les valeurs de la société environnante, puis qui vont justement se réclamer de ces valeurs-là et qui vont aller, qui seraient prêts à faire des actes, oui, criminellement responsables. Ça peut être, bon, des attentats, ça peut être, à ce moment-là, ta croyance, ton idéologie, elle est sectaire.
Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait considérer aussi que certaines religions, on parle de christianisme, d'islam, de judaïsme, est-ce qu'on pourrait les considérer, elles aussi, comme des sectes à part entière?
Ben souvent. En fait, il y a plusieurs sous-groupes dans chacun des groupes religieux que tu viens de nommer, dans ces trois grands monothéistes-là. Il y a des groupes sectaires dans chacun. Il y en a d'autres qui vont vivre leur vie, tout va bien aller, ils embêteront pas les autres, ils sont pas à la recherche, ils feront pas de prosélytisme, ils vont pas chercher de nouveaux membres, ils vont vivre leur vie avec leurs valeurs qui font du sens pour eux, et c'est tout.
Et quand tu parles de groupe sectaire, est-ce qu'on identifie ni plus ni moins que des groupes extrémistes ou ça peut prendre d'autres formes?
Non, ça peut prendre vraiment d'autres formes.
Comme quoi?
Je prends souvent comme exemple le féminisme. C'était super sectaire au début. C'est des valeurs qui vont contre les valeurs de la société environnante, par des émeutes, les suffragettes dans les rues, tout ça. C'était énorme, là. Mais finalement, on a réussi à développer des lois pour les femmes. On a le droit de vote, on a le droit d'avoir des comptes en banque, on a le droit de dire qu'on a une âme et qu'on existe.
Donc ça, c'était une bonne secte, finalement.
Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'on voit ça de manière super péjorative, alors qu'il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de milieux sectaires. Parce qu'il y a une différence entre des sectes et des milieux sectaires. c'est un peu long à expliquer, mais...
On a le temps. Ben, on a un peu de temps.
un milieu sectaire, c'est pas nécessairement quelque chose de totalitarisme ou d'apocalyptique. Donc, souvent, là, je prends l'exemple des suffragettes, du féminisme et tout ça, mais Greenpeace, à la base, c'était sectaire. Parce que l'écologie ne faisait pas partie des valeurs environnantes. Et on sait qu'ils ont eu des mouvements un peu plus extrêmes, plus extrémistes pour faire valoir ces valeurs-là. Donc, on a appris de cette demande-là. Puis en même temps, si on veut savoir comment se porte une société, bien, allons voir un peu de quoi se revendiquent les milieux sectaires qui la composent. Parce qu'il y a quand même un groupe de gens qui sont prêts à se couper de la société pour que cette valeur-là soit mise de l'avant.
Est-ce qu'on pourrait penser que, par exemple, le bouddhisme, le judaïsme, est-ce que ça pourrait être une forme de secte en quelque sorte?
Ça rentre pas vraiment dans la catégorie, le bouddhisme. Souvent,
c'est une philosophie de vie.
Ça dépend comment c'est vécu. Là, il y en a que c'est très religieux, c'est pas juste une philosophie, mais on peut être chrétien et bouddhiste à la fois.
Ouais.
Parce qu'on peut justement accueillir ces valeurs-là que le bouddhisme transpose. Donc, non, pas vraiment. Je dirais pas que c'est des sectes. Par contre, il peut y avoir des groupes sectaires dans ces grandes familles de pensée-là. Des groupes qui vont plus s'isoler des autres. Des groupes qui vont plus revendiquer certaines choses. Puis il va y avoir une séparation, tout simplement, qui va être fait à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut donc dire que les idées qui sont en opposition à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la place publique, qui sont souvent des nouvelles idées ou des idées champ gauche, commence en étant un peu sectaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y adhère. Il y a assurément une minorité de gens qui y adhèrent et c'est comme ça que les sectes se construisent. Et de cette question et de ce concept-là, comment se construit une secte? Est-ce que c'est de cette façon-là que ça s'opère?
En fait, c'est une question super intéressante. Je ne crois pas que l'avancement et l'évolution soient sectaires. Que tout ce qui fait en sorte qu'on évolue comme société, les idées innovantes et tout ça, ça soit du sectarisme. En fait, j'affirme que ça ne l'est pas. Parce que on garde les mêmes valeurs, on veut juste innover, on veut juste faire avancer soit la science, soit une idée, soit, mais il n'y aura pas de radicalisme et de cassure violente par rapport aux valeurs de la société.
Quand les valeurs sont brusquées dans l'environnement dans lequel on évolue, c'est là qu'on pourrait parler de sectarisme.
Oui. De milieu sectaire, oui, tout à fait.
OK, puis qu'est-ce qui, dans ses fondements, là, une secte, c'est quoi dans tes mots?
C'est une très grosse question et en fait, on n'a pas la même définition au niveau, mettons, d'infosecte ou de Miviludes qui, lui, est en France.
Pourquoi?
Qui, lui, ratisse beaucoup plus large. Ils mettent les multi-level marketing dans les sectes aussi.
Les MLM.
Ou les MLM, oui.
Voilà, voilà.
Miviludes met les MLM dans les structures sectaires, alors qu'ici, on ne le fait pas, mais dans certains groupes, on peut reconnaître qu'il y a une pensée sectaire qui est là. Alors que chaque personne de ton environnement devient un client potentiel, là,
ouais.
Parce que tu n'es plus capable d'avoir d'amis et de ne plus avoir de conversation comme tu l'avais auparavant, parce que chaque personne est un client potentiel, parce que tu veux ressembler à telle personne qui a réussi. T'écoutes plus de musique, t'écoutes juste des CD, j'allais dire des cassettes. T'écoutes juste des CD ou des podcasts de cette personne-là ou qui encourage tel truc. Ça commence à être assez fermé, surtout si ton groupe de travail, famille, amis, ne se résume qu'à ça. Mais en même temps, est-ce que ça va porter problème à quelqu'un, mis à part que tu vas te couper socialement de ceux qui ne pensent pas comme toi?
Est-ce que les témoins de Jéhovah pourraient être considérés comme étant une secte?
Absolument.
Oui,
absolument. Hein? Ils ne participent pas à plusieurs fêtes, n'ont pas de transfusion sanguine. Les règles à l'intérieur sont très strictes. Lorsque un témoin de Jéhovah quitte les témoins de Jéhovah, c'est coupure totale avec sa famille, ses amis. Les gens ne lui reparlent plus. Si oui, c'est en cachette.
Est-ce qu'on sait combien on peut compter de témoins de Jéhovah ici au Québec? On a-tu une idée de...
J'ai aucune idée.
J'ai
comme les recensements sur les religions ne se font plus, c'est
okay.
Beaucoup plus difficile de dire exactement combien il y a de témoins.
Parce que j'ai l'impression qu'on connaît tous quelqu'un qui s'est fait renier par sa famille à un moment ou à un autre.
Absolument.
Lorsqu'il a décidé de sortir des témoins de Jéhovah. Toi, en connais-tu?
Des témoins de Jéhovah? Non, mais ils sont venus cogner chez nous là, une semaine.
C'est vrai?
Oui, oui. Ouais.
Ils font encore
ça? Ils m'ont parlé de la résurrection du Christ, puis ils m'ont invité à un gros party que je ne pouvais pas aller parce que j'avais des engagements à journée, là, imagine-toi donc.
Mais en fait, les personnes qui font le porte-à-porte comme ça, les gens qui font le porte-à-porte, ils sont obligés de le faire. Ils doivent faire tant d'heures par année. Donc, quand ils passent chez vous, C'est parce qu'ils sont obligés, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont le goût d'être chez vous.
Ouais.
Fait que, tu sais, des fois, on dit, ah oh ouais, envoyez les chiens, ouvre la porte, monte tes fesses, non, non. Ils n'ont pas plus le goût d'être là que vous autres, là.
Non, c'est juste qu'ils
sont obligés, puis ils ont des heures à comptabiliser. C'est pourquoi, pendant la pandémie, il y avait des lettres écrites à la main que plusieurs personnes ont reçues chez eux et qui venaient de Témoins de Jéhovah, parce que comme ils ne pouvaient pas visiter à la maison, chaque moment qu'ils prenaient pour écrire à la main les lettres comptabilisait leurs heures.
On a un recherchiste personnalisé en studio qui nous a donné l'information. 25 000 membres au Québec.
Ça date de
2016.
C'est ça.
Donc,
ils n'en font plus maintenant de recensement.
C'est ça. Quand même.
C'est pas bon pour leur image? Ou?
Non, en fait, c'est que c'est demandé dans les recensements, la religion et ces choses-là. Okay. C'est plus
demandé. Moi, je me demandais, parce que bon, on le voit là, de plus en plus... de moins en moins de présence catholique là, ici au Québec et tout, même les églises là, qui sont vendues, transformées, tout ça. Mais qu'en est-il des villes et villages qui portent le nom de saints? Sainte-Mélanie, Sainte-Pétronille, Sainte-Anne-de-Beaupré, ça fait partie de notre culture et tout ça, mais est-ce qu'éventuellement on va aller jusqu'à, selon toi, penses-tu qu'on pourrait aller jusqu'à dire, hey, on transforme le nom des villes pour plus avoir d'association?
Ah, oh, j'imagine que c'est comme la croix à l'Assemblée nationale. Hein? C'est culturel, puis on n'en parle plus.
C'est ça, hein?
On va pas là soir. Donc, si on a des doutes à savoir si quelqu'un dans notre entourage fait partie d'une secte, est-ce qu'on pourrait dire que le moment où on joint une secte, c'est le moment où on est obnubilé par une seule et même idée, puis on n'est pas capable de parler d'autre chose que ça, puis on ne voit que ça dans notre soupe?
Ça peut être un facteur qui donne un bon indice à savoir si quelqu'un de notre entourage justement adhère à un milieu sectaire ou non. En même temps, il ne faut pas mélanger milieu sectaire et passion. Parce que moi, si je me mets à triper sur un chanteur, un joueur de guitare, n'importe quoi, ben ça se peut que j'en parle vraiment très, très souvent. Parce que sinon, on peut comparer le fait d'être amoureux.
Ouais, ben là, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Là. Tu n'iras pas habiter chez Shawn Mendes, c'est sûr?
Non.
En tout cas, à moins que tu le connaisses.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bon, naïfs ou qui ont envie de croissance personnelle et tout ça, qui pourraient facilement devenir membre d'une secte. En fait, moi, je me rappelle, là, j'étais jeune et l'Église de Scientologie et Raël, en fait, les Raéliens sont passés à notre école secondaire donner des pamphlets et moi, je croyais aux ovnis et je trouvais ça super intéressant jusqu'à ce que je réalise que ça faisait pas de sens. Ouais. Et l'Église de Scientologie sur la rue Saint-Joseph ici à Québec là, avait un espace et ils m'ont arrêté dans la rue pour répondre à un certain sondage puis ils m'ont invité dans leur librairie. Je trouvais ça intéressant, là.
Oui, ça, c'est le love bomb. C'est quand t'arrives au début, le love bomb, là, ils te donnent tellement d'amour, sont tellement compréhensifs, sont tellement dans l'accueil du nouveau, puis on va te faire découvrir, on va y aller à ton rythme. Mais une fois qu'une personne est vraiment dans le mouvement, ben là, il y a des obligations qui commencent à rentrer. Mm-hmm. Chose que tu n'avais pas dans le love bomb qui t'a attiré. Cette ouverture qu'il y avait face à toi, face à tes projets, face à tout ça, n'est plus tellement présente.
Et dans le cas de la scientologie, je crois que c'est monétaire. Donc, c'est au niveau financier qui viennent. Alors que dans d'autres sectes, c'est sexuel.
Absolument. Absolument.
Mais avant qu'on rentre plus dans le personnel, dans comment ça afflige les membres qui font partie des sectes, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre les sectes dites un peu plus religieuses relativement aux sectes qui sont considérées avec un mouvement spirituel ou alternatif?
En fait, ça le dit, ce qui est spirituel ou alternatif, souvent, il n'y aura pas cette structure hiérarchique lourde. Comment je peux dire ça? Il peut y en avoir, mais ça ne sera pas institué. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas un pays ou un territoire qui va se réclamer de cette croyance-là. À ce moment-là, c'est un petit peu plus facile de mettre des règles. Puis la spiritualité, en fait, ça n'a pas tant de règles. Je donne un exemple, un peu de religion à la carte, parce que ça rentre dans la spiritualité. La religion à la carte, ben c'est notre matante qu'on connaît toutes, qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en l'angéologie, qui fait du Reiki, puis il y a des petites roches. On en a toute une dans notre entourage.
Ouais, ça,
c'est de la religion à la carte, et ça fait partie de sa spiritualité. Et le pourquoi je trouve que ça, c'est bon quand même, cette religion à la carte-là, c'est un peu parce que les gens la bâtissent eux-mêmes en partant. Ça fait de mal à personne de se faire mettre la main à deux pouces du corps.
Même que ça fait du bien, à la limite, je veux dire.
Ben, oui. Puis pas juste ça, c'est que les gens
dans la bienveillance.
À la recherche, les gens qui ont une spiritualité ou une religion, ou même nous qui se posons des questions, pas nécessairement sur ces sujets-là, C'est souvent parce que justement, on se pose des questions, on trouve pas des réponses satisfaisantes autour de nous. Et soit pas de réponses satisfaisantes ou pas de réponses qui vont dans le sens qu'on voudrait que ça aille. Et on finit par trouver justement ces réponses-là dans un groupe donné où on construit nous-mêmes cet univers de sens-là pour être à l'aise psychologiquement, pour être... Donc, il peut y avoir du self-care aussi à travers la spiritualité qui fait pas en sorte que c'est quelque chose de nocif du tout. Là.
Parce qu'on le voit, il y a des retraites qui se font, absolument, des retraites de croissance personnelle et tout ça.
Absolument.
Puis souvent, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gourous justement qui réussissent à convaincre les gens de venir dans leur retraite, puis ça boit des plantes médicinales et tout ça. Ça, ça pourrait être considéré comme une secte.
Bien, encore là, ça dépend. Parce que si la personne, quand elle ressort de là, elle a pu faire une introspection pour vrai, retourne-y l'année prochaine si ça te fait du bien.
Oui, oui, oui. C'est pas d'obligation à participer ou à.
Exactement. Si ça te coupe pas de tes proches, si tout ça, là, si ça t'isole pas de manière psychologique, physique, mentale, vas-y, si ça te fait du bien, vas-y. Ça veut pas dire que c'est une secte, la croissance personnelle.
Donc là, quand tu disparais de la map, puis tu tombes dans un autre monde complètement, puis tu te mets juste à vivre pour une idée ou l'idée de quelqu'un, là, c'est sectaire à ce moment-là.
Absolument. Absolument.
Et est-ce qu'on peut parler de comment on se rend? Ben, évidemment, il y a plusieurs types de sectes. C'est pas tous les gourous qui ont la même philosophie. Exact. On le sait, on l'a entendu à plusieurs reprises dans la culture populaire. Comment on se fait endoctriner? Comment on se rend dans une secte?
Ben, en partant, il y a un point qui est important à dire. Souvent, on pense que c'est des gens qui sont faibles d'esprit ou qui ont vécu un gros trauma puis qui ont besoin d'être rassurés.
Je pense que c'est très populaire comme
opinion. L'ordre du temple solaire, là, c'était des lettrés. C'était des gens qui avaient été à l'université, qui avaient des degrees, qui avaient des... Fait qu'il faut pas penser nécessairement que les gens dans les milieux sectaires, c'est des gens sous-éduqués qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de tout ça. En fait, c'est un peu comme je vous ai dit, c'est des gens qui sont à la recherche de réponses à leurs questions.
Le sens, c'est de... Ouais.
Un sens à leur vie, des réponses à leurs questions. Ils trouvent pas de réponses à leurs questions. Puis là, il y a un groupe qui a des réponses pour eux. Puis ça fait du sens. Ça fait du sens. Fait que pourquoi pas?
Donc, c'est pas un effet. Ça leur fait du bien à eux, sérieusement, à l'intérieur d'eux, finalement.
Absolument.
Fait qu'ils n'ont pas envie de quitter le groupe, nécessairement, mais peut-être qu'à partir du moment où ils se rendent compte que là, wow, ça commence à clocher, c'est là que ça peut être difficile, j'imagine.
Ben, c'est comme une relation toxique. Quand t'es en couple avec quelqu'un dans une relation toxique, il y a quand même quatre phases aux relations toxiques. Puis quand tu commences, ben, tu sais, c'est l'amour, c'est les cadeaux, t'es le plus ou la plus importante. Donc, ça arrête plus, là, tu sais, t'es dans le love bombing, comme je vous disais tantôt, là. Puis, petit peu, par petit peu, tu sais, telle affaire, tu fais pas ça correct. Telle affaire. Puis finalement, ça devient une montagne, mais on est habitué. Et ça se rajoute.
Entre-temps, t'as coupé les ponts parfois avec tes membres de la famille, absolument, tes proches et tout. Donc, même si tu voulais quitter,
t'as plus de ressources.
T'as plus personne.
Ouais, tout à fait. Mais je te relance, là. Si on parle pas d'intellectualité, mais on parle de fragilité émotionnelle, est-ce qu'on pourrait établir un corrélaire entre l'adhésion à une croyance d'une secte et la fragilité émotionnelle? C'est-à-dire, on est tellement à la recherche de réponses que, à la seconde où quelque chose nous offre une idée qui nous correspond sur un plateau d'argent, on tombe là-dedans parce qu'on a une fragilité?
Pas nécessairement, parce que la fragilité émotionnelle et le questionnement n'ont pas de corrélation entre eux. Je peux me poser énormément de questions sur la vie, le cosmos, le ci, le ça, sans avoir soit une maladie mentale ou soit être fragile psychologiquement. Ça peut être de la curiosité. Il va y avoir un groupe qui va avoir des réponses à ça.
Est-ce que tu crois qu'avec le documentaire de Raël qui vient de sortir, il y a des gens qui pourraient avoir eu envie de joindre? Est-ce que tu penses que ça peut avoir servi de promotion?
Tout peut servir de promotion. Qu'on en parle en bien,
moi, j'ai eu l'impression que ça pourrait donner envie à des gens. Parce que je trouvais que la façon dont c'était fait, il y a quand même un volet que j'ai trouvé.
Mais il y a l'amour libre qui est toujours très attirant. Que ça vienne de frustration personnelle, interne, whatever. Ou pas du tout. Ça peut être une avenue. Tu sais, dans le temps, on parlait pas de polyamour. Mais les gens qui étaient à l'aise avec cette structure-là, pouvaient facilement rejoindre les Raéliens et être dans le moule qui était donné quand même. Donc, c'est juste qu'on n'avait pas de terme, c'était pas accepté, c'était pas discuté. Donc, tu sais, il y a des bémols comme ça où, bon, on n'est peut-être pas rendu là en tant que société, puis eux, ils offrent une réponse à ça.
On va déjà devoir aller à la pause, mais restez avec nous puisqu'au retour, on va parler de gourous, mais également de la place qu'occupe la sexualité au sein des sectes. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Exploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Max et vous écoutez la Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On est en compagnie de Anne-Marie Tapp, religiologue et candidate à la maîtrise du Centre d'études religieux contemporains de l'Université de Sherbrooke. C'est le moment où on rejoint un peu le thème de l'émission, c'est-à-dire la place qu'occupe la sexualité dans les sectes. J'aimerais qu'on parle de Warren Jeff Wacko, David Corash, de sainte prostitution, mais également de Twins Flame.
Mm-hmm, qu'on a pu voir sur Netflix.
Oui. Donc, on va y aller avec peut-être Wacko. Moi, je te dirais que c'est une histoire qui m'a beaucoup ébranlée, que j'ai pu écouter également sur Netflix. Et juste pour vous dire, si vous ne l'avez pas écouté, il est très rare qu'on est capable de capter mon attention pour plus qu'une heure devant une télévision. Je me suis tapé la série au complet en un soir. 4 ou 5 épisodes d'une shot. Tellement c'était intéressant, c'était captivant, troublant. J'ai pleuré. Il y a beaucoup de sexualité.
Exactement.
Dans cette secte-là.
En fait, c'est que, on se rappelle des événements qui sont arrivés et tout, la tuerie, le feu et tout. Par contre, les gens qui étaient dans ce groupe-là, sur un étage, il y avait les hommes. Sur l'autre étage, il y avait les femmes. Il y avait les pièces communes où ils pouvaient manger, faire les louanges et tout. Il n'y avait que David Koresh qui avait droit d'avoir une vie sexuelle.
Le gourou.
Les femmes, en fait, devenaient toutes ses femmes à lui. Donc, il pouvait faire des enfants avec n'importe qui. Il y a même l'exemple d'un couple fait vécu. Là. Ils sont rentrés les deux là-dedans et ils n'ont plus jamais couché ensemble. Et Warren Jeff a mis la femme enceinte, etc., etc. Le mari n'a plus jamais pu toucher sa femme de manière sexuelle ou autre.
C'est fou. Je me demande tellement à quel point tu entres en couple dans une secte qui réussit à vous séparer. C'est complètement
et c'était quoi, fou. Et c'était quoi l'idée de David?
Ben, en fait, c'est que c'est un contrôle du corps qui est pris. L'esprit est déjà pris, la spiritualité est déjà prise. C'est un contrôle du corps qui se fait à ce moment-là. Il faut savoir que David Koresh était vu comme un nouveau messie, là, comme un prophète incroyable. Quel honneur de laisser ta femme à un prophète, un messie qui est sur Terre et qui a la vérité. Et en tant que femme, quel honneur d'avoir cet être divin qui te fait un enfant. Cet enfant sera béni aussi. C'est le fruit de tes entrailles. C'est toi qui accouches d'un être béni. Il faut comprendre la dimension où les gens sont omnubilés par le caractère, par le personnage qu'est le prophète. Ici, dans ce cas-ci, David Koresh, c'est un dieu sur terre. C'est le messager de Dieu sur terre. Fait que c'est... Limite, c'est pas triste, c'est un honneur.
Mais comment ils font pour se rendre à le croire autant que ça? C'est vraiment le charisme de la personne, ses capacités de manipulation qui sont hors normes? Comment quelqu'un de normal peut...
C'est un mélange d'un peu tout ça. Ça part d'une bonne idée. Souvent, je donne des conférences justement sur les milieux sectaires, puis souvent je dis, OK, on est nous trois, OK? On trouve que ça commence à coûter cher à se loger. Ça commence à coûter cher, la nourriture, elle coûte vraiment cher. Tout commence à coûter cher. On va s'acheter un terrain, puis on va se bâtir une maison dessus, on va tout habiter dedans. Good! Puis là, ben, le terrain est assez grand, on peut s'en bâtir un autre après, ainsi de suite, tout va bien. On va être aussi autosuffisant au niveau de l'électricité puis de la nourriture. À date, c'est un beau projet, là. C'est un très beau projet, on ne doit plus rien à personne. Moi, je suis enseignante, je peux enseigner aux enfants qu'on va avoir. Tout est good! Mais moi, j'ai beaucoup de leadership dans la vie, là, tu sais, puis je run des équipes puis tout ça. Fait que ça se peut que je te dise quoi faire pour tel truc, tu sais. Puis ça se peut que, ben, Mané, t'aies besoin de conseils, puis tu viens de me voir pour ces conseils-là. Puis là, ça va pas bien avec ta blonde ou avec ton chum. Puis là, tu dis, hey, ben, Anne-Marie, elle me donne des bons conseils. D'habitude, je vais aller la voir. Elle est toujours, tu sais, elle a une sagesse. Je vais aller la voir pour y demander. Moi, je commence à te donner. Ben, moi, ce que tu sais pas, là, c'est que ta blonde ou ton chum, là, je le convoite. Fait que là, ah, peut-être que je vais te donner des mauvais conseils. Ou peut-être que, mais c'est parce que mes conseils, ils valent quelque chose et mes conseils vont valoir plus que les conseils de quelqu'un d'autre parce que j'ai été établie comme personne sage. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, que la personne qui a été établie comme autorité le veuille ou non, il y a l'effet de groupe aussi qui demande au leader toujours plus, d'être toujours plus leader, de toujours être plus bon. Fait que oui, il y a le leader, que c'est un méchant gros pas fin et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le groupe qui alimente ce leader-là, et lui a pas le choix de devenir un personnage toujours plus grand que nature.
Et comment les gens qui sont à l'extérieur de la secte, parlons de Waco, là, qui avait un lieu de résidence dans le désert, l'attraction autour du groupe, comment ils rentrent là-dedans? Est-ce que c'est par des personnes connues d'une personne connue, un ami d'un ami? Est-ce que c'est quelqu'un volontairement qui va se rendre là-bas? Comment ça fonctionne? Comment quelqu'un se rend à pénétrer dans une secte?
En fait, ça peut être par curiosité. Ou ça peut être par descendance génétique aussi. Il y a plusieurs milieux sectaires qui ne cherchent pas à faire de nouveaux membres, mais qui, comme balancier, vont juste faire vraiment beaucoup d'enfants.
Par donc, descendance génétique, donc ils veulent avoir des enfants et ils vont se rendre là-bas pour en avoir?
Ben, ça peut être ça. On parle en principe de Waco.
Ouais.
Waco faisait pas de prosélytisme. Là. Il disait pas aux gens, « Hey, venez nous voir, ils vont dans la rue, ils ont des gros stands, blabla, machin. »
C'est
là,
ça. T'sais.
Donc, ben les enfants que David Koresh fait, s'il y a 30 femmes là-dedans, il peut mettre les 30 enceintes en même temps. Puis 9 mois après, ils peuvent toutes retomber enceintes. Là.
Effectivement.
Aïe, aïe, aïe.
Notre sens. Il y a quelqu'un sur le live qui dit quelque chose d'intéressant. La plupart des Québécois sont laïcs, mais personne ne voudrait perdre ces journées fériées. Et plusieurs vont même à l'église pour les décès. Et pourtant,
ils
croient en rien. Il y a même des gens qui se font encore... bon, on fait les funérailles et tout ça là, à l'église, l'enterrement et tout, alors que c'est des personnes...
Mais l'église est encore omniprésente, qu'on le veuille ou non.
Moi, j'ai décroché au moment où ça disait, dans la Bible, si je ne me trompe, là, c'est « Jésus, tu ne construiras pas d'édifice en mon effigie. »
En fait, ça va beaucoup avec... Ben, en fait, on s'entend qu'il y avait des temples à l'époque, puis tout ça, fait qu'il y a vraiment pas de problème avec ça, mais c'est surtout au niveau des idoles qui sont placées dedans. Et si tu te mets à idolâtrer la bâtisse en tant que telle, plutôt que le message qui doit en ressortir, c'est là que le problème est plus, je dirais. Puis, c'est très intéressant le commentaire que vous avez eu d'ailleurs, parce que c'est tout à fait vrai. On tient à nos fêtes, on tient à nos vacances de Pâques, on tient à Noël. Et là, on va avoir Pâques, on est-tu content d'avoir 4 jours? on y tient parce que c'est des vacances qui nous sont données depuis des temps et des temps. On est content de l'avoir, mais c'est culturel.
Oui.
Mais la signification s'est étiolée avec le temps. On ne fête plus Pâques pour les raisons pour lesquelles on les fêtait à l'époque.
Ben non, tout à fait. Puis je me rappelle, moi j'ai des enfants et un de mes enfants à Pâques, il y a 2 ans environ. Bon, je suis religiologue, leur papa l'est aussi. Et mon enfant a dit « Merci Jésus d'être mort! » Puis j'étais comme « Mais pourquoi? » Parce qu'il m'a donné du chocolat.
Oh fait, my God.
C'est tout mélangé, mais dans notre culture aussi, c'est tout mélangé.
Oui.
On le sait, c'est quoi, ish, mais on va quand même s'acheter des œufs, du chocolat, du sain crème, toutes ces affaires-là, là, tu sais.
On va parler tout de suite de Warren Jeff.
Oui. En fait, Warren Jeff, c'est l'ancien chef de la secte des fondamentalistes des Saints des derniers jours.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a vraiment une différence entre les Mormons et ce groupe-là. Ça, c'est un groupe de Mormons, oui. Mais les Mormons, lorsque la polygamie a été interdite, ils ont fait « D'accord, nous cessons ». Ce groupe-là s'est scindé, a fait « Nous, on n'arrêtera pas ». Parce qu'on a plein de bonnes femmes, puis on en
c'est
a des jeunes, puis on en a des cute, pourquoi pas?
Voyons donc.
Bon, entre autres, là, il y avait plusieurs aspects, mais entre autres, celui-là était vraiment important. Donc, ils se sont scindés des Mormons, tout simplement. Puis justement, pour venir à Warren Jeff, ce qu'il faut savoir, c'est que son père à lui, c'était le prophète. D'accord? Et lui avait vraiment beaucoup d'enfants, puisqu'il avait vraiment beaucoup de femmes.
Quelles étaient ses caractéristiques au prophète? Comment on pouvait le désigner?
Ben, en fait, c'est lui qui avait la parole de Dieu. Dieu parlait à travers lui et donnait son message à travers lui. Il était même capable de créer les mariages. Il disait, ben, toi, jeune fille, tu vas te marier avec lui. Tu vas te marier avec tel ancien. Tu vas te marier avec tel jeune homme. Tu vas... Donc, voilà. Mais on s'entend qu'au ratio, ça prend vraiment beaucoup de filles pour nourrir tous ces messieurs-là.
Ouais.
Puis, ben, c'est parce que si t'as un garçon, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'as juste espéré qu'il monte dans la hiérarchie pour avoir un paquet de femmes. Par contre, ça prend vraiment plus de femmes que d'hommes dans cette hiérarchie-là. Là. Puis justement, c'est ça, son père, c'était le prophète. À la mort de son père, il y a eu un peu de focaillage. Il s'est proposé lui-même comme prophète, finalement. Puis il a fait passer ça sur la tête. Bon, que c'est son père qui avait choisi ça et tout et tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a remarié toutes les femmes de son père. Et il en a marié des nouvelles aussi. Fait qu'il était rendu là, à un groupe de femmes incroyable. Il y a eu des abus sexuels là-dedans, autant de la part de son père que de sa part à lui. Des jeunes filles mineures étaient mariées sans cesse. Là. Puis c'est un honneur de se marier avec le prophète. Tu donnes ta fille au représentant de Dieu sur Terre, à la personne qui parle au nom de Dieu. Tu sais, pour nous, ça semble un peu loufoque, là, mais pour eux autres...
Quand ils sont dans l'immersion, c'est normal pour eux. Puis justement, ils sont tellement conditionnés à ce que ça soit logique et normal comme phénomène. Comment ça se passe lorsqu'elles sortent? Est-ce qu'elles ont un regard assez juste pour comprendre que c'était pas correct ou sont encore obnubilées par le phénomène?
C'est difficile. En fait, souvent, les gens, puis pas juste au niveau de Warren Jeff, mais souvent, les gens, quand ils quittent les milieux sectaires, c'est pour leurs enfants.
Okay.
Parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants vivent la même chose qu'eux.
Donc, ils ne se défont pas totalement de l'idéologie?
Non. Ah, oui, non, peut-être.
Ils sont conscients qu'il y a quelque chose.
Ils sont conscients qu'il y a un problème.
Mais ils sont confus.
Parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants le vivent, mais pour eux-mêmes, ils sont prêts à recevoir beaucoup de violence, mais ils ne veulent pas que leurs enfants subissent cette violence-là.
Et dans le cas de cette secte-là, lui est en prison encore aujourd'hui?
Oui, il est en prison en ce moment, mais il donne quand même ses ordres à partir de la prison. Oui, oui, c'est jamais complètement coupé. Parce qu'il y a encore des groupes, son groupe l'écoute encore, sont encore fidèles.
Ben justement, parlons-en. Là. C'est quoi le regard des institutions étatiques et des lois vis-à-vis des sectes comme ça? À partir de quand ça devient un enjeu et qu'il faut mettre un terme à ça aux yeux de la loi?
C'est difficile de pouvoir, un, les identifier parce que comme elles sont fermées sur elles-mêmes, ça prend un témoin qui en sort puis qui fait comme « Hey, hey, telle affaire » et ils ont besoin de preuves rendues là. Donc, c'est tout ce processus-là qui est vraiment très lourd, vraiment très difficile. Ça prend un signalement. Puis les gens de l'intérieur, ben ils vont se baquer entre eux autres en disant « Non, non, il ne s'est rien passé. » Puis ils ont comme une forme de justice alternative quand ils sont à l'intérieur du mouvement. Là.
C'est-à-dire?
Ben en fait, on le voit même dans des églises ici au Québec, s'il y a des cas d'agression sexuelle, va pas voir la police parce que là, ça va sortir dans les journaux. Puis de quoi on va avoir l'air? Et pas juste de quoi on va avoir l'air, c'est que c'est le royaume de Dieu qui va en être atteint. Parce que là, on va dire que tous les pasteurs sont comme ça, tous les curés sont comme ça, toutes les... puis là, les gens vont faire des amalgames, puis ils vont aller vraiment dans l'extrémisme de dire « sont toutes de même ». Les prêtres, c'est toutes des pédophiles, les pasteurs, c'est toutes des... Tu sais, donc ces amalgames-là totalitaires qui sont vraiment... ça peut être nocif pour le message, donc c'est pour ça que ça se rend pas nécessairement.
Est-ce que tu crois qu'il y a encore plusieurs jeunes sœurs ou frères qui se joignent à l'Église catholique présentement?
Il y en a encore, ouais. C'est en déclin. Mais il y en a encore, oui, oui. Il y a des groupes de jeunes fidèles qui donnent leur vie à Dieu puis qui veulent justement suivre ses voies, qui vont faire des stages un peu partout en Europe. Ils voyagent énormément. Puis même ici au Québec, la meilleure forme de féminisme qu'on pouvait avoir pendant des années, c'est on voulait pas être sous le joug d'un homme, qu'on voulait s'éduquer, qu'on voulait pas être obligé d'avoir 300 millions d'enfants de travailler sur la terre ici, ça. C'était de devenir sœur. Tu pouvais t'éduquer. T'étais pas sous le joug de ton mari qui allait te grimper dessus une fois par semaine parce que ça prend de la descendance pour l'Église. Puis t'étais pas obligé de t'occuper de tes vieux parents. Quelle plus belle manière comme femme de s'émanciper.
Ben, c'était une vie d'abstinence aussi. Je me demande à quel point c'était beau pour la femme.
Oui, mais en même temps, ce que tu connais pas, t'en as pas tant de besoin.
Même si c'est un besoin biologique?
Ben.
Et voire animal?
Ça peut être un besoin biologique. Par contre, sans stimulation ou quoi que ce soit, je pense que ça finit comme par...
Ben, il peut y avoir une régression, mais en même temps, on fait tous des choix dans la vie. Eux, ils ont choisi justement l'abstinence plutôt que d'avoir un mari peut-être violent, que d'avoir des parents malades, devoir s'en occuper pendant longtemps, de souffrir des accouchements épouvantables à répétition. Je pense que j'aurais fait le même choix.
Oh oui,
je serais devenue bonne sœur, je me serais éduquée, puis... Absolument, là.
Moi, je cherchais une communauté à joindre. Moi, je rêvais d'être sœur.
On s'en partira
jusqu'à 14 ans.
Mais chez les femmes qui se font pas agressées parce qu'elles pensent vraiment qu'elles font la bonne chose de coucher avec un homme qu'elles considèrent comme un prophète.
Ah, puis souvent, elles le veulent.
Ouais,
si
exactement.
On regarde justement la secte des Raéliens, les jeunes femmes se mettaient à porter des colliers là, en lien avec...
Il y en a certaines qui le vivent comme une agression. Là. On ne peut pas généraliser. Il y en a certaines qui le vivent comme une agression, mais il y en a d'autres qui le vivent comme un honneur.
Ben, c'est de ça que je veux parler. Chez les personnes qui vivent ça comme une agression, c'est quoi le rôle de la coercition psychologique et émotionnelle de la part des prophètes et des dirigeants de la secte? Est-ce qu'il y a il doit y avoir beaucoup de manipulation qui est faite?
Absolument.
Et beaucoup de contrôle? Comment ça s'opère chez ceux qui pensent qu'ils sont victimes d'agression puis qui restent là quand même?
ça dépend des groupes. C'est pourquoi c'est plus difficile à répondre. Il y a tellement de groupes qui utilisent la sexualité et où il y a des agressions sexuelles où les gens sont conscients que c'est une agression sexuelle parce qu'à un moment donné, tu le ressens dans ton corps.
Oui.
Ça dépend des groupes, je te dirais, mais il y a beaucoup de contrôle qui se fait à partir de là. Il y a beaucoup de « je devrais être honoré ». C'est moi le problème parce que je me sens pas honorée qui ait fait ça sur moi alors que c'est le prophète. Fait que là, elle a fait une introspection. Est-ce que c'est parce que je m'éloigne de la foi que je le vis comme ça? Est-ce que donc tout ça, la personne se remet en question elle-même souvent? Puis c'est justement, elle s'en sortira pas parce qu'à la prochaine agression, elle va faire « Mon Dieu, ça me fait encore de la peine, je me sens encore blessée. Pourtant, c'est le prophète, ça devrait pas m'arriver. »
Brainwash perpétuel.
Ben voilà.
La sainte prostitution.
Oui!
On a dit qu'on allait en parler. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, ça s'appelle le flirty fishing. Ça vient de la secte des enfants de Dieu ou la famille internationale. C'est tous des noms que ça a porté. Ça a été fondé par David Burke dans les années 1960. Puis, c'était partout à travers le monde, en fait. Le flirty fishing a duré pendant les années 70-80, je dirais. Puis, en fait, c'était surtout des femmes, les envoyer dans des lieux, surtout le soir. Elles quittaient l'endroit où tout le monde était. Elles allaient dans les bars, les country clubs, toutes ces places-là où il peut y avoir des jeunes hommes. Et à la fin de la soirée, elles le ramenaient sur place ou à l'hôtel ou peu importe. Et c'était leur manière de faire du prosélytisme. Donc, elles couchaient avec la personne pour le ramener sur les lieux de culte ou à un endroit où il pourrait rencontrer un ancien qui pourrait lui prêcher la bonne nouvelle. Et ça
s'appelait
du flirty
fishing. En même temps, quand on y pense, c'est du génie.
Fonctionner.
Ben, pourquoi pas?
Ben, c'est vraiment du génie quand on pense à ça, mais c'est complètement délabré.
Ben, pour David Berg, le créateur de ça, lui, il disait que c'était une forme d'amour missionnaire parce qu'elles aiment leur prochain.
Ben oui.
Et ça se fait encore aujourd'hui, semble-t-il.
Ben, en fait, cette secte-là, ce groupe-là, je ne sais plus comment l'appeler, existe encore aujourd'hui. C'est son fils maintenant qui dirige ce groupe-là. Et ils disent ne plus pratiquer le flirty fishing, mais n'ont pas changé de nom depuis la dernière modification où le flirty fishing avait encore lieu.
Les femmes qui faisaient ça, est-ce qu'il y avait l'impression de se prostituer ou c'était encore une fois un honneur d'aller chercher des nouveaux membres?
Il y avait les deux cas. Les mamans qui avaient leur mari à la maison et tout, puis qui devaient partir travailler, faire le deuxième chiffre le soir parce que, mon Dieu, je suis cute, fait que je vais arriver à accrocher des gens. C'était des femmes qui étaient jolies parce qu'il faut attirer les gens. Donc, tu étais fertile en beauté, tu étais fertile. Donc, tu vas être fertile en parole. La personne va venir plus facilement écouter justement tous ces beaux discours-là à propos du divin et à propos de David Berg, David Moïse Berg, parce qu'ils aiment tous se donner un petit surnom de prophète pour justifier leur place. Donc,
c'est tout le temps Jésus ou Bouddha, une réincarnation des deux.
Oui, c'est ça. Mais Moïse, ça a été utilisé vraiment très souvent comme nickname. Là, voilà. Ouais. Donc, c'est ça.
J'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais partagé une vidéo de Mathieu Cyr qui s'était transformé l'instant d'un moment en gourou.
Absolument.
Est-ce que n'importe qui pourrait, avec les bons outils, devenir gourou?
En fait, c'est un projet auquel j'ai participé.
Oui.
C'était vraiment super intéressant. C'était justement montrer qu'est-ce que ça prend pour devenir gourou. Ça, c'est un chemin. Il y a 300 millions de chemins.
Faut-tu être coach de vie à la base?
Ça peut aider justement le fait d'être capable de bien vulgariser puis de faire des introspections aux gens. Dès que tu arrives à toucher l'intérieur des gens, je parle pas physiquement bien entendu, mais dès que tu arrives à toucher l'intérieur des gens où ils font une introspection, se remettent en question, s'ils se remettent en question, tu peux quand même leur fournir des réponses. Donc voilà, ça peut commencer par ça.
Au niveau du gourou en tant que tel, là, comment est-ce qu'on peut devenir gourou comme Mathieu? Lui, qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu as partagé? En fait, je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, mais comment est-ce qu'il en est venu à être capable d'attirer des gens à sa... C'était une conférence, je pense, hein, ou une
retraite? En fait, il donnait déjà des conférences. Puis c'est des vraies conférences qu'il donnait. Là. Donc, il n'y avait rien d'inventé là-dessus. Mais c'était surtout la partie où, sur les réseaux sociaux, des fois, il lance un petit message, des petites choses comme ça, des retours qui se faisaient. Il n'y a pas personne qui a embarqué de manière dangereuse là-dedans.
Mais non, c'était dans la bienveillance quand même.
C'était quand même éthique. Donc...
Entre guillemets.
Ouais, ben c'est ça, tu sais. Mais c'était quand même bien dirigé de ce côté-là. Mais en fait, c'est que ça prend quelqu'un qui démontre une bienveillance. Et il y a une chose, par contre, que je trouvais très intéressante, justement, avec Mathieu, c'est qu'il a changé quelques parties de son apparence. Un petit collier de billes de bois, s'habillant en blanc. C'est niaiseux, mais ça s'imbrique dans des symboliques. Et on est très fort sur les symboles. Tu sais, pour nous, voir quelqu'un avec une croix dans le cou, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'on est rendu séculier, il y a une croix dans le cou, ça ne veut pas dire qu'il est croyant. Par contre, voir quelqu'un avec un croissant et compagnie, on va faire, ah oui, c'est un religieux, là, tu sais, lui, bon. Mais c'est ça, des fois, on a des images d'imbriqués, même culturellement. Si tu vois quelqu'un dans la rue là avec un collier en billes de bois, avec un haut fait en lin, un peu lousse, des petites broderies dessus, tu penseras pas que ça sera ton meilleur body dans une bataille.
Non.
Fait que ça se peut que tu sois plus enclin ou encline à lui confier des trucs parce que cette personne-là va être calme. Donc, jouer sur l'apparence physique, ça peut aider, tout dépendant du type de personne que tu vas aller chercher. Donc là, c'était plus dans le New Age, la formation personnelle, la croissance personnelle, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va taper dans l'intellectualisme aussi. Là.
Ça prend une certaine intelligence, je pense, pour pouvoir devenir ou espérer pouvoir devenir gourou.
Il faut être atoureux.
Exactement. Il faut être capable de manier les phrases vides puis les proverbes qui veulent rien
récits,
dire.
Les rites et les règles, comme toute bonne les trois R des religions, récits, rites, règles. Si tu arrives à avoir ça puis tu arrives à isoler les gens, pas qu'ils voient les gens qui pensent pas comme nous, là, c'est pas mal bon, ça.
Quand ils parlent, hein, vous...
Père à elle, là, il avait du charisme, c'était incroyable.
Ah oui, vraiment.
Ouais, il a vraiment tellement essayé d'être connu, Raël. Là, la course automobile, les journaux, les chansons.
Ouais.
Les...
C'est vrai, c'est un chanteur.
Il a fini par réussir, mais pas de la manière dont il l'avait entamé au début.
Mais vous savez, depuis qu'on est jeune, on va à l'église, tout ça, puis au niveau sans trop... Bon, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai réalisé récemment, en allant à l'église... Ça m'a fait peur. Je me disais, mon Dieu, les grandes robes blanches, les grands l'encens, les gros chapeaux, tout ça. Tabarouette! C'était peurant, c'est quelque chose, là, quand tu t'arrêtes.
Tu croiras à l'Halloween.
Tu y penses, quand t'es hors contexte, mon fils n'a pas vraiment été à l'église depuis qu'il est jeune, et je me disais, mon Dieu, s'il y va un jour... Ça se peut qu'il pogne un 2 minutes, là.
Mais pourquoi ces accoutrements-là?
Ça joue dans le symbolisme. Ça joue dans la pureté du vêtement. Les couleurs ont des significations. Justement, tout ce qui est phallique, que ce soit sur la tête, que ce soit les clochers, c'est pour se rapprocher de Dieu. C'est plus haut. C'est pour ça, souvent, tu sais, des guerres de clochers. Ah, la tour de clocher la plus haute parce que t'es plus près de Dieu, des choses comme ça, tu sais. Mais ça joue dans le symbolisme, justement, cet habit blanc-là. Mais on l'a encore maintenant, ce symbolisme-là.
Oui.
Parce que dès qu'on voit une annonce à la télé avec quelqu'un qui a un sarrau, on s'imagine que c'est un médecin puis qu'on peut y faire confiance.
C'est vrai.
Hein? Tu nous mentionnais tout à l'heure que tu as démarré une OBNL pour des déconvertis, des gens qui sont issus des sectes, qui s'en ont sortis vraisemblablement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Comment on peut les qualifier?
Comment on peut les qualifier? En fait, pour donner l'information, ça s'appelle Nouvelle Racine. On peut trouver des informations sur nouvelleracine.org. Et justement, les gens se déconvertissent. En fait, ce lieu-là, c'est un safe place. On aime le terme, mais on aime surtout pouvoir l'appliquer. Pour les gens, oui, qui se sont déconvertis ou qui sont encore croyants, mais qui veulent un endroit où pouvoir se poser des questions. Entre autres, bon, ben, je suis chrétien, chrétienne, mais je ressens de l'attirance pour quelqu'un du même sexe que moi, ou je suis pas sûre de mon genre, ou, tu sais, je veux pouvoir me poser des questions et j'ai besoin d'un lieu où me déposer. Ben, ce lieu-là pour se déposer existe.
Wow.
Puis il y a des partenaires quand même super intéressants, là. Mais les gens qui vont, là, qui viennent nous voir, qui viennent nous parler, c'est des gens qui sont pas à la recherche d'un sens, mais ils veulent pouvoir y introduire la vie sociale. Puis
ils sont isolés peut-être.
Ben, ils ont été très isolés, puis en fait, ils n'ont pas le code de la vie sociale. Le langage n'est pas le même. Les termes ne sont pas les mêmes.
C'est quoi les différences majeures que tu dénotes, par exemple?
Le langage, l'isolement, la reconnaissance de la valeur de soi. Ne pas se faire confiance, là, ça, c'est énorme. Quelqu'un te dit un compliment, jamais tu vas le prendre. Tu vas faire... toi aussi, puis tu vas redonner un compliment en échange parce que t'es pas à l'aise avec le fait d'en recevoir. Parce qu'en fait, t'es rien.
Imagine, tu nais Ben, on va la nommer témoin de Jéhovah. J'ai une amie, moi, qui est née comme ça, dans une famille de témoins de Jéhovah qui a décidé de quitter un jour, mais c'est une nouvelle vie complètement, là, quand tu sors de là, parce que là, le diable est partout.
Absolument, tu vis dans le monde. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est polarisé, fou. Ces groupes-là. Là. Soit t'es croyant puis t'es proche de Dieu, ou soit tu crois pas la même chose que moi. Et clairement, c'est Satan qui dirige ta vie. Fait que quand tu quittes, t'as peur aussi.
Mais oui, t'as peur de mourir, t'as peur de te faire attaquer. De...
Toute ta vie, tu t'es fait dire que la personne qui est en train de te tendre la main, là, ben, c'est un piège de Satan.
Ils sont conditionnés comme ça.
Ben, t'as confiance en personne, puis ça peut être vraiment long avant de se déconditionner, justement.
Ben, c'est ça au niveau de la réinsertion sociale. Est-ce que c'est possible pour ces gens-là d'espérer un jour retrouver un semblant de vie normale?
Absolument, absolument.
Sans jamais revenir dans cette période-là de leur vie, sans jamais y repenser, sont capables?
Sans jamais y repenser, non. Je pense qu'on pense tout à notre passé, peu importe d'où on vient. Sans jamais y repenser, non, parce que c'est important de se rappeler d'où on vient pour faire comme... Tu sais, c'est comme l'image de la montagne. Quelqu'un qui part au milieu de la montagne pour se rendre au sommet, bravo, good, tu t'es rendu au sommet. Mais si moi, je suis partie là, du fond de l'eau, puis je me suis rendue au milieu de la montagne, mon ascension est beaucoup plus grande, même si tu t'es rendu plus haut.
Fait que moi, je vois des gens vraiment qui vivent une vie épanouie, heureux, qui ont... Oui, ça a été difficile. Certains ont complètement coupé les ponts avec leur famille. Mm-hmm. D'autres, la famille a suivi par la suite. C'est le cas notamment de mon amie Karen Arsenault, qui est humoriste. Elle en parle ouvertement là, de comment ça s'est passé. Puis, ça a été vraiment un game changer dans sa vie, en fait. C'est une nouvelle vie complètement qu'elle s'est offerte. Exactement. Puis aujourd'hui, tout est du plus, tout est du bonus. Elle vit à fond. Donc, oui, il y a de l'espoir pour
ça. C'est ça qui est beau dans l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation et de se relever des grandes épreuves.
Exact.
Mais peux-tu renommer l'organisme pour aider ces gens-là?
Oui, Nouvelle Racine au pluriel, .org.
Ça fait combien de temps ça existe?
Hey, c'est tout nouveau comme au BNL, mais on a déjà des bons partenaires, là, entre autres Lise Wattier, Dress for Success, qui donnent des vêtements aux femmes qui vont passer des entrevues de travail.
Wow.
Puis qui fournissent leurs vêtements pendant une semaine aussi de travail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es maman à la maison pendant 17 ans, puis que t'as juste fait des bébés, bien que t'as toutes fait des bébés.
Mais c'est extraordinaire.
T'as pas travaillé, tu sais pas comment remplir ton CV, tu sais pas comment.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est de se trouver des partenaires comme ça qui trouvent que justement la cause en vaut la peine.
Mais y en a-tu tant que ça, des femmes qui sortent de des sacs ou des hommes qui viennent vous voir?
Oui.
Au Québec?
Oui. Oui, assez pour partir un OBNL pour les soutenir.
Ah, c'est fascinant.
Incroyable. Et vous aidez les hommes et les femmes.
Absolument.
Donc, les vêtements pourraient aussi être offerts.
Ben, cette entreprise-là ne fait que les femmes.
Que des vêtements
femmes,
pour femmes, OK.
Mais oui, au niveau des
vous
hommes,
les accompagner,
il y a de la consultation qui se fait, il y a des fins de semaine.
Quelle belle cause.
Qui se font aussi. Donc oui, c'est que la demande était vraiment là, assez pour partir un OBNL puis mettre notre nom en jeu pour faire comme, hey, il faut les aider.
Si jamais on a l'impression qu'on se fait enferouaper dans une secte, qu'on a l'impression qu'on tombe vers la secte, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se prémunir de tomber dans la secte, justement?
En fait, c'est de ne jamais arrêter de parler à son entourage, de ne pas rester dans une chambre à écho où il y a juste la nouvelle idéologie qui a droit de parole. C'est de continuer de parler à notre entourage parce qu'ils nous connaissaient avant qu'on adhère. Puis, il y a quand même des endroits où on peut téléphoner, entre autres InfoSecte. Il y a le CPRMV, aussi le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui ont des intervenants super qualifiés aux deux endroits qui peuvent nous aider. On peut poser des questions, c'est vraiment très complet. Donc, on peut parler du groupe où on va, est-ce que ça, pas nécessairement demander est-ce que ça c'est une secte, mais est-ce que telle structure c'est sectaire, est-ce que je m'en vais vers quelque chose qui pourrait être dangereux pour moi? Il y a quand même des ressources qui existent déjà pour ça.
Anne-Marie Tapp, c'était un plaisir et sur le live, on reçoit que de bons mots, là. Très, très intéressant comme émission. Félicitations, donc merci beaucoup, vraiment. Donc, c'était Anne-Marie Tapp, religiologue et candidate à la maîtrise du Centre d'études religieux contemporain de l'Université Sherbrooke. Merci beaucoup.
Merci.
Max, merci beaucoup encore une fois pour ton beau travail ce soir. Et merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été très nombreux sur le live à interagir avec nous. Toujours très intéressant également. C'est un rendez-vous demain soir, 22h, pour Las Exploratrices sur les ondes de choix, 98.1 Radio X.
Las Exploratrices.
Avec Mel Trudel. Radio X.